6-9. Listen
anywhere. Huawei Duba.
Wahda Hun Souria.
Sur France Inter.
Bonjour Anthony Bélanger.
Bonjour Laetitia.
Alors c'est fait, la Grande-Bretagne et l'Union Européenne ont signé.
Oui, et si je voulais être provocant, je dirais so what. Et alors, en 4 années et demie de négociations acrimonieuses qui ont consommé 3 premiers ministres britanniques, il n'a jamais été question d'autre chose. Un accord devait être signé, et plus encore depuis que la Grande-Bretagne et l'Union Européenne doivent affronter 2 crises couplées, sanitaires et économiques. Alors on sentait bien depuis plusieurs jours que Londres levait une à une les hypothèses qu'elle avait elle-même installées. D'abord en se débarrassant de son stratège et brexiteur en chef, Dominic Cummings, comme on l'a pas assez souligné, mais le départ du conseiller spécial et âme damnée de Boris Johnson, et ce, quelques jours après l'élection de Joe Biden, eh bien, a changé la donne.
La question, c'est qu'est-ce que Joe Biden vient faire dans cette équation ?
Eh bien, Dominic Cummings était le pendant britannique d'une Amérique trumpienne, idéologue buté, méprisant les parlementaires et avec une vision libertarienne de l'avenir de la Grande-Bretagne. Si Trump l'avait emporté en novembre, sa ligne aurait triomphé. Or, au cours de sa campagne, le vainqueur Joe Biden a envoyé 2 messages à l'attention de Boris Johnson. D'abord, ne reconstituez pas une frontière en Irlande. Ensuite, pas question de signer un accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne tant que les États-Unis ne sont pas sortis de la crise et n'ont pas reconstitué leur compétitivité. En clair, pas de no deal avec l'Union Européenne. La messe était dite.
Alors, mais cet accord est-il malgré tout une victoire pour Boris Johnson, hein ?
Alors, d'un strict point de vue économique, non. Mais depuis le début, on sait que si la Grande-Bretagne voulait vraiment un accord de libre-échange avantageux, elle ne serait jamais sortie de l'Union. Le marché unique, c'est Londres qui l'a voulu et construit. De la même façon, la focalisation sur la pêche est totalement délirante et surtout politique. La pêche britannique emploie 12 000 personnes et contribue moins à la richesse de la Grande-Bretagne que le seul grand magasin londonien Harrods. Donc l'enjeu est ailleurs et il était philosophique. L'enjeu, ce sont 2 conceptions de la souveraineté. Ursula von der Leyen ne s'y est pas trompée. Hier, elle a tenté de donner un contenu à cette souveraineté à l'européenne, une souveraineté qui met en commun les forces de chacune de ses parties pour constituer un géant, dit-elle, dans le monde, capable de discuter d'égal à égal avec d'autres géants comme la Chine et les États-Unis aujourd'hui et demain l'Inde et l'Afrique.
Mais sans la Grande-Bretagne, est-ce que cette vision est encore possible ?
Eh bien, c'est bien le problème et cette fois-ci, la balle est dans le camp des Européens. Depuis sa création, l'Union Européenne est un pôle d'intégration. On l'a rejoint avec plus ou moins d'enthousiasme, mais en ayant l'impression d'épouser le sens de l'histoire. Or, en faisant la démonstration, même par l'absurde, que l'on pouvait quitter cette union toujours plus étroite, et en plus, en signant un divorce à l'amiable, la Grande-Bretagne vient d'instiller un poison lent et peut-être mortel à l'Union européenne. Désormais, il faudra à l'Europe plus que des mots creux pour maintenir une union fragilisée. En clair, qu'est-ce que cette union qui hésite entre les États-Unis d'Europe et les Nations Unies d'Europe ? Sommes-nous un empire commercial, un empire à l'ancienne ou une simple addition de nations ? Il va falloir répondre et à mon avis, très vite.
Merci Anthony Bélanger. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort.
Demain sur France Inter.
Une heure en série. La seule émission de radio entièrement consacrée aux séries télé.
Samedi 20h, Xavier Le Herpeur.
Parfois un peu ringarde, délicieusement honteuse, nous allons célébrer les séries que l'on regarde en douce sans oser le dire à ses amis ou ses potes de France Inter.
J'ai compris que tu étais ma raison d'être.
Quel sera le top 10 des séries honteuses choisies par les auditeurs de France Inter ? Réponse ce samedi.
Mais sans toi, tout cela ne vaut rien.
Une heure en série.
À suivre tous les samedis sur France Inter. À partir de 20h.
8h22.
France Inter. Laetitia Gaillet. Le 6-9.
En direct des locaux de France Bleu Champagne-Ardenne à Reims, que l'on remercie au passage, Éric de Moulin-Beaufort. Bonjour monsieur.
Bonjour madame, bonjour à tous et à toutes.
Merci, vous êtes l'archevêque de Reims, mais aussi le président de la conférence des évêques de France. Alors Noël, fête chrétienne, comment se sont passées les messes hier soir ?
Ben écoutez, j'ai l'impression plutôt bien, avec beaucoup moins de monde que d'habitude pour chacune d'entre elles, mais dans beaucoup d'endroits on avait multiplié les messes, ce qui a permis de respecter les gestes barrières, la distance donnée. En gros, on pouvait accueillir un tiers de l'effectif ordinaire.
Mais certaines quand même de ces messes affichées complets, c'est-à-dire qu'il y a la crise sanitaire et il y a un besoin de spiritualité, vous le sentez, vous, actuellement ?
Ben écoutez, en tout cas, si je prends la cathédrale de Reims, qui avait fonctionné avec une réservation de places, les billets ont été pris très 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 rapidement. Oui, on sent bien que beaucoup de gens avaient envie de fêter Noël, beaucoup de gens avaient envie de donner un peu de sens à leur vie au terme de cette année éprouvante.
Et vous n'avez pas eu peur d'un cluster ?
Non, parce que vous savez, la célébration de la messe en elle-même, je doute qu'elle puisse vraiment provoquer un cluster. Ce qui est plus difficile, c'est les sorties, mais là, je pense que tout le monde a fait très attention à ne pas s'attarder, à ne pas faire des groupes et échanger des vœux, même entre amis. Et tout le monde est rentré chez soi assez rapidement. C'est ça la condition pour éviter une contagion.
Alors, Éric de Moulin-Beaufort, hier soir, dans son homélie, le pape François a dit qu'il ne fallait pas passer son temps à pleurer sur notre sort, mais servir les plus pauvres. Et puis, il a eu cette phrase, les fidèles affamés de divertissement, de succès et de mondanité sont souvent analphabètes de bonté. Qu'est-ce qu'a voulu dire le pape, selon vous ?
Que la bonté n'est pas simplement une attitude spontanée de l'être humain. La bonté, ça se cultive, ça se choisit, ça se nourrit. Être vraiment bon, transmettre de la bonté, agir par bonté, ça demande des choix dans la vie. Alors si on passe son temps à regarder du divertissement, si on passe son temps à penser surtout à ses loisirs, si l'on court entre sa vie professionnelle et ses loisirs, eh bien, on n'a pas beaucoup de temps pour à consacrer, à donner à ce qu'on peut appeler la bonté.
Mais c'est surtout marqué par ce qui nous arrive en ce moment, cette crise sanitaire, selon vous ?
Mais la crise sanitaire nous met un peu au défi de vivre vraiment dans la bonté, d'être attentif aux autres. D'une part parce qu'on ne peut pas avoir tous les gestes ordinaires puisqu'on est obligé de rester à distance. Donc tout ce qui nous permet habituellement de marquer notre attention aux autres, notre affection et notre bonté, disons tout cela, est un peu empêché. Et en même temps, il y en a plus besoin que jamais parce qu'il y a des gens malades, parce qu'il y a des gens seuls, parce que il y a des gens en situation de précarité. Donc, il nous faut faire preuve d'imagination et de créativité. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est plutôt passé, notamment dans le premier confinement. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de belles initiatives, soit des initiatives visibles, soit des choses très discrètes, entre amis, entre voisins, entre paroissiens, pour ceux qui nous concernent. Beaucoup de gens ont su prendre des nouvelles les uns des autres, veiller les uns sur les autres, faire les courses d'une personne âgée. Et tout cela continue, donc il y a de belles réserves de bonté du moment qu'on la nourrit, qu'on l'entretient et qu'on la choisit.
Alors, en ces périodes de fêtes de fin d'année, Éric de Moulin-Beaufort, on a dû, on l'a dit, réinventer Noël. Est-ce que l'Église, de son côté, dans cette crise qui nous occupe, a été obligée, elle aussi, pendant cette période, de se réinventer ?
Oui, on peut le dire, on a beaucoup découvert les possibilités que nous offraient à la fois les réseaux sociaux, la diffusion en ligne, des offices, des échanges, etc. Ce qui fait la vie chrétienne, notamment la préparation à Noël, le temps que nous appelons l'Avent, ce sont souvent des groupes bibliques, ce sont des groupes d'échanges, de réflexion, par exemple. Tout ça, on n'a pas pu le faire réellement, enfin, en tout cas en présence, mais dans pas mal d'endroits, on a trouvé les moyens de le faire par des visioconférences ou bien en faisant circuler des feuilles d'informations d'une manière ou d'une autre. Pareil pour, par exemple, le catéchisme des enfants. Beaucoup d'initiatives de ce genre ont été prises. Et certainement, une partie de toute cette expérience pourra perdurer.
Je vais être un peu dur, mais est-ce que c'est quelque part, dans cette situation difficile, est-ce que c'est pas une opportunité pour vous ?
Si, de toute façon, toute crise est une opportunité. Toute crise nous oblige à aller chercher des ressources nouvelles, à développer un peu notre imagination, à sortir de la routine. Et honnêtement, il y a eu de belles choses comme cela. Hein. Le premier confinement était pour nous un temps assez privilégié parce que c'était le carême et puis la semaine sainte, donc le temps qui prépare à Pâques. Donc des moments très intenses pour nous. Et comme les fidèles étaient privés des offices et des rencontres habituelles, eh bien, il a fallu développer beaucoup d'imagination et ça s'est fait. Et il y a eu vraiment de très belles initiatives et tout ça va nous aider pour la suite.
Et puis, il y a eu une forme de patatras avec l'arrivée du deuxième confinement. Est-ce que l'État, selon vous, y est allé un peu trop fort quand au début du deuxième confinement, il impose des jauges de 30 personnes dans les églises ? Est-ce que vous vous êtes senti, vous, Église de France, maltraité ?
Bon, personnellement, je ne dirais pas qu'on a été maltraité parce que je pense que les responsables politiques ont plutôt, en fait, essayé d'être attentifs. Mais
vous avez eu des mots qui étaient quand même assez clairs.
C'est-à-dire qu'ils ont été maladroits. Cette jauge 30 était une absurdité, donc il a bien fallu le dire, il a bien fallu s'en débarrasser. Alors en France, face à un décret du gouvernement, la voie pour le faire lever, c'est le Conseil d'État. Donc on a fait ce qu'il fallait pour cela. Mais on a eu après des discussions tout à fait cordiales avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Parce que, de fait, c'était une absurdité que cette imagination de 30 qui s'appliquait à tout lieu, quel qu'il soit, et qui ne permettait pas de résoudre la situation.
Mais est-ce que, comme c'était une première pour l'Église de mener une action en justice contre une décision de l'État, est-ce que on peut y voir une forme de tournant ou de fracture avec le pouvoir? Est-ce que ça veut dire que maintenant, vous allez, chaque fois qu'une décision va être annoncée, vous prendre la possibilité de la contester?
Bah écoutez, j'espère qu'on n'aura pas à le faire tout le temps. Hein. Personnellement, je ne considère pas que recours au Conseil d'État soit un sport particulièrement intéressant. Mais ce qui s'est passé, ce qui est nouveau, je crois surtout, c'est que l'État a eu besoin, ou a voulu en tout cas, légiférer sur la façon dont les offices sont tenus. Alors que la loi de séparation, normalement, fait que l'État ne s'occupe pas des offices. Donc l'État peut dire... En France, il est interdit de réunir plus de X personnes, et ça s'applique à tout le monde, y compris, par conséquent... aux offices religieux, dans la mesure où on est des lieux ouverts au public et donc on se plie à cette règle. Là, ce qui est un peu particulier, c'est que l'État a voulu donner une norme différenciée, ce qui était un peu spécial.
Mais ce mouvement, en fait, ce moment qui est arrivé avec la décision du Conseil d'État, il est né aussi, entre guillemets, des ouailles de l'Église. Et est-ce que ça veut dire que vous vous sentez maintenant poussé? Il y a quelque chose qui est en train de se passer?
C'est-à-dire que le premier confinement a fait éprouver à beaucoup de fidèles que on pouvait pas les priver comme cela de leur vie religieuse, comme on décide qu'on n'ira pas faire des courses.
Parce que certains vous l'ont reproché.
Certains nous ont reproché d'avoir été trop de nous être résignés un petit peu vite aux consignes sanitaires qui nous ont été données. Je crois malgré tout que tous les gens raisonnables reconnaissent qu'on n'a pas le choix. Il faut bien lutter contre cette épidémie. Et ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, l'Église, à travers le temps, a toujours adopté les règles sanitaires qui s'imposaient. Lorsqu'il y a eu la peste à Marseille au XVIIIe siècle, les églises ont été fermées et les prêtres célébraient la messe tout seuls et apportaient la communion aux fidèles. Mais on ne célébrait pas, on ne rassemblait pas les gens. Ça a toujours été comme ça, contrairement à ce que l'on a parfois pu entendre. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est que nous vivons dans des sociétés extrêmement organisées, que l'État, pour des raisons à la fois de sécurité sanitaire et de sécurité face au terrorisme, a tendance aujourd'hui à limiter les libertés. Donc tout ça, ça doit se faire avec beaucoup de prudence, beaucoup de précautions. Et les fidèles ont exprimé le fait que nous ne sommes pas que des producteurs, nous ne sommes pas que des consommateurs, nous sommes aussi des hommes, des êtres appelés à vivre dans une certaine transcendance, à vivre dans une certaine ouverture au mystère de Dieu, et que c'est pas l'État ne peut pas nous en empêcher.
Et en même temps, Éric de Moulin-Beaufort, vous avez un statut à part. Par exemple, les salles de spectacle, elles sont restées fermées et restent encore fermées. La culture est mise à mal, mais pas le culte.
Mais oui, parce que l'État reconnaît, en tout cas c'est le cas en France, que la liberté de culte est une liberté fondamentale, donc touche une dimension de l'être humain particulière. Après, je signale que les chrétiens, comme tout le monde, vont aussi au cinéma, vont aussi au théâtre, et donc en ce moment, ils sont aussi privés du cinéma, du théâtre, du cirque, des restaurants, comme tout le monde. Le culte n'est pas en concurrence avec le théâtre, avec toutes les manifestations culturelles. C'est d'un autre ordre, et donc, de fait, nous avons la chance, malgré tout, de vivre dans un État qui reconnaît qu'il y a un autre ordre, et c'est une des grandeurs de notre société.
Conséquence de cette crise sanitaire, Éric de Moulin-Beaufort, et de la fermeture des églises, il y avait une urgence aussi à les rouvrir, parce que vous avez aussi beaucoup perdu, les finances sont mises à mal.
Oui, il faut relativiser cela. Il y a eu des pertes, hein, et de fait, elles ne sont pas compensables, parce que ça ne relève pas des dispositifs
justement d'aide. 90 millions d'euros, quand même.
D'aide de l'État, oui, oui. Bah donc, de fait, à l'échelle de la France entière, ça fait une grosse somme, effectivement. Donc ça, c'est très important. Cela dit, nous constatons la grande générosité, la grande des fidèles, des pratiquants, qui nous soutiennent par le denier de l'Église. Donc il y a des diocèses qui sont en difficulté, nous aurons à développer une certaine solidarité entre les diocèses et nous y préparons. Voilà. Mais la réclamation de rouvrir, de reprendre les offices avec des assemblées, est indépendante de la question économique et financière. C'est pas tout à fait comme ça que nous fonctionnons.
Il n'empêche, comment vous allez faire pour renflouer les caisses? Vous allez devoir, par exemple, vendre certains actifs, des choses comme ça?
Mais il y a déjà quelques années que tous les diocèses réévaluent un peu à la fois leur patrimoine, leur fonctionnement. Nous n'avons pas beaucoup de prêtres, en tout cas nous avons moins que nous n'en avons eu. Parfois nous avons des salariés un peu trop nombreux ou qui correspondent à des fonctionnements qui ne sont plus tout à fait ceux d'aujourd'hui. Malheureusement, donc il y a une réévaluation de tout cela comme
toute réalité humaine. Vous voulez dire que l'Église va licencier ?
Ben, j'espère que non, mais que, comme vous le savez, il n'y a pas que le licenciement comme moyen. Il y a des gens qui partent à la retraite, qu'on n'est pas obligé de remplacer, il y a des postes que l'on peut redéfinir, qu'on peut organiser autrement. Donc ce genre de mesures, nous allons tâcher de les prendre. Comme tout corps humain, comme tout corps social humain, il faut se réajuster sans cesse à la réalité. Donc ça, c'est très, très important pour ne pas avoir de la mauvaise graisse, disons. Mais voilà, nous avons aussi un patrimoine immobilier qu'il faut toujours réévaluer parce que souvent il est le fruit de tout un héritage historique et que la population s'est déplacée, les villages ne vivent plus comme ils vivaient, les villes ont des centres de développement qui ne sont pas forcément ceux du passé, donc tout ça c'est toujours à reprendre.
Éric de Moulin-Beaufort, il y a eu des événements dramatiques aussi cette année, en dehors de la crise sanitaire. Il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, l'attaque aussi contre la basilique de Nice. Quel peut être le rôle de l'Église dans la lutte contre les fanatismes ?
Je dirais déjà, aujourd'hui, vraiment, c'est déjà garder la mémoire de toutes ces personnes. Personnellement, j'ai ouvert la messe hier soir en évoquant tout ce, justement, Samuel Paty, et puis les trois personnes, Vincent, Simone et Nadine, qui ont été assassinées à Nice, ainsi que les gendarmes qui ont été tués, c'est un contexte tout à fait différent, dans le puits de Dôme, et puis tous leurs proches, parce que malheureusement, l'actualité chasse l'autre, et je vous remercie vraiment de les évoquer, parce que je pense qu'il est très important pour leurs proches qu'on ne les oublie pas. Alors, je crois que toute religion doit être toujours en train de se réévaluer en quelque sorte, parce que la violence, elle est dans le cœur des hommes. Et tout homme est capable, à partir du moment où, pour une raison ou pour une autre, il est tenté par la violence, il est capable d'utiliser même sa religion, mais toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de pensées, toutes sortes de moyens de justifier sa violence. Donc, il y a constamment un travail à faire pour se détacher de la violence et aider les croyants, en l'occurrence, à sortir de la violence.
Mais
ça, c'est un travail constant.
Comment, en fait, concrètement ?
Eh bien, souvent en revenant à la vraie source de notre foi, en tout cas pour nous chrétiens, hein, notre Seigneur, c'est Jésus qui meurt crucifié, qui n'est pas un chef de guerre, qui n'est pas un chef terroriste, et qui nous invite à aimer nos ennemis. Donc, il faut sans cesse revenir à cela. On peut être toujours tenté d'utiliser sa religion comme une manière de réaffirmer son identité, de s'accrocher à soi-même. Mais en tout cas, pour le christianisme, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Et il s'agit précisément de nous laisser conduire par le Christ, toujours un peu au-delà de nous-mêmes.
Mais ça, c'est pour la religion catholique. Mais par exemple, est-ce qu'il y a besoin d'un plus grand dialogue interreligieux, par exemple ?
De fait, c'est toujours nécessaire parce que précisément, nous confrontons entre religions, nous confrontons notre conception de ce que c'est qu'être un être humain, de ce que c'est que la vie, la mort, l'amour, la vérité, le service de la vérité. Et il est toujours important de se laisser provoquer par les uns par les autres, y compris d'ailleurs par les philosophies athées, disons, tout ça nous oblige toujours à réinvestir pour aller chercher plus profondément dans les sources de notre foi, de manière à servir la plus grande vie de l'être humain, et comprendre que la vie de l'être humain, ce n'est pas de prendre la vie des autres, c'est d'apprendre à donner la sienne.
Ça, on est bien d'accord, mais ce sont les mots. Mais par exemple, est-ce qu'il y a assez de dialogue entre l'Église et le monde musulman, par exemple, en France ?
Alors, je pense qu'entre responsables, il y a pas mal de dialogues. Je pense que vraiment nous arrivons à un vrai dialogue entre responsables. Ce qui je crois manque dans notre société française, c'est une véritable connaissance entre des familles, disons chrétiennes, puisque je parle de ce qui me concerne, ou catholiques, et puis des familles musulmanes, parce que pour toutes sortes de raisons, on vit un peu juxtaposés les uns aux autres, notamment pour des raisons sociales. Il faut le reconnaître. Donc on manque de connaissances et de liaisons mutuelles. Et ça, c'est un point très important. Et il faut bien reconnaître que dans certains quartiers où il y avait une certaine cohabitation, eh bien, un changement des conditions sociales et un certain durcissement d'une partie des gens d'origine musulmane ou musulmans, un certain durcissement de l'islam a rendu difficile la cohabitation. Je pense à un certain nombre de communautés religieuses qui vivaient dans des cités depuis des années, en très bonne intelligence avec leurs voisins musulmans, et qui, ces dernières années, ont été obligés de partir parce que les plus jeunes ne les respectaient pas comme le faisaient leurs parents. Donc là, il y a un travail constant. Ça désole les responsables. Et comme vous le savez, un des problèmes de l'islam en France, c'est l'imam électronique, c'est l'imam numérique, disons. C'est sur Internet que les gens que certains jeunes vont se former parce qu'ils ne croient pas à ce que la société française peut leur apporter. Donc il y a là un défi pour notre société française, toute une jeunesse à qui il nous faut donner de la place, à qui il nous faut donner confiance en elle, à qui il nous faut donner confiance que notre société française est capable de lui donner une place.
Éric de Moulin-Beaufort, on va prendre les questions des auditeurs. On va retrouver Pierre au standard. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Joyeux Noël à tous.
Joyeux Noël.
Bon Noël.
Merci bien. Voilà, je précise que je fais partie des 1,8% de citoyens français qui vont tous les dimanches à la messe. Et je voulais revenir un petit peu en arrière sur les incidents, entre guillemets, du début décembre. Le clergé catholique n'a pas du tout condamné, même si c'est anecdotique, les quelques prières de rue qui ont été beaucoup médiatisées. Les Notre Père devant la cathédrale de Versailles ou de Nantes, ou tout comme les discours de certains croyants catholiques qui plaçaient la messe au-dessus des règles sanitaires. Ne croyez-vous pas, Monseigneur, qu'en laissant ce discours se répandre, la majorité des Français, et en particulier tous ceux qui souffrent, comme les cafetiers, les restaurateurs, le monde du spectacle, du confinement, qu'on nous mette, si vous permettez l'expression, dans le même sac que d'autres religieux qui placent, pour être clair, le Coran, lui aussi, au-dessus des lois de la République. Et que ça va faire, si vous permettez ce jeu de mots, le pain béni de certains anticléricaux français.
Éric de Moulin-Beaufort.
Alors, voilà une question en toi qu'un certain nombre de gens ont posée. En effet, je la reçois beaucoup dans le courrier que je reçois. Donc, on voit qu'il y a des modes de réaction différents. Ce qui s'est passé là, c'est qu'un certain nombre de personnes, notamment des jeunes, ont réagi, je dirais, avec les codes de la jeunesse d'aujourd'hui, qui peuvent nous surprendre. Alors après, il ne faut pas se laisser trop obnubiler par cette histoire de prière de rue. On a toujours en France le droit de... Normalement, si on est plusieurs, on peut rassembler, du moment que le rassemblement est autorisé, ce qui était le cas de la plupart de ces rassemblements, hein, qui avaient fait une déclaration à la préfecture et qui avait laissé faire. On peut se rassembler pour toutes sortes de choses. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est bloquer la circulation ou gêner la circulation, pour que ce soit pour prier ou pour autre chose. Donc il n'y a pas là de situation qui soit illégale. Ou qui soit contraire à la loi, au contraire. Bon. Après, par rapport aux règles sanitaires, ce que je crois que la plupart de ces manifestations se sont faites en ayant grand soin de respecter les règles sanitaires, précisément parce que il s'agissait non pas de contester les règles sanitaires, mais de contester les mesures que l'État avait prises à propos des offices. Et là, je crois qu'on touche un point très important qui touche à la question de la liberté. Dans la mesure où l'État restreint des libertés, il doit le faire avec beaucoup de prudence et de précaution. Et d'ailleurs, le Conseil d'État a donné raison. Donc, tous ces décrets sont rédigés très rapidement, il faut bien le dire. Hein, les fonctionnaires qui travaillent dans les ministères travaillent dans des conditions extrêmement éprouvantes. Donc ils rédigent, hein, ils dirigent très vite. Il n'y a pas à s'étonner qu'il y ait besoin de corriger un certain nombre de ces décrets.
Mais ça veut dire que c'est une forme de mise en garde que vous faites aujourd'hui, Éric de Moulin-Beaufort. C'est-à-dire, il va falloir compter avec l'Église. L'Église peut avoir aussi un rôle, entre guillemets, politique.
Ben, c'est pas absolument nouveau, hein. Personnellement, je dis depuis le début que sur la question de la liberté, nous devons être très attentifs et je crois que nous rendons un service à la société française tout entière. Encore une fois, parce que nous sommes dans une période de pression, hein, en quelque sorte sanitaire d'une part et puis aussi face au terrorisme. Donc l'État qui doit protéger et tenter de resserrer en quelque sorte le champ des libertés, ce qui est son rôle, mais qui doit être fait quand même dans le respect d'un certain nombre de règles et dans le respect des libertés fondamentales. Donc là-dessus, il y a une vigilance nécessaire qui n'est pas que le fait de l'Église, mais qui est et qui sera celui de l'Église, c'est certain.
Éric de Moulin-Beaufort, la vaccination en France contre le coronavirus va débuter dimanche pour les personnes âgées en EHPAD. Quand le Vatican juge que les vaccins anti-Covid sont moralement acceptables, ça veut dire quoi ?
Je sais pas très bien parce que je sais pas comment ils auraient pu dire qu'ils n'étaient pas moralement acceptables, sauf si on avait la preuve que les vaccins ont été bricolés, n'ont pas fait l'objet de toutes les assurances ou toutes les vérifications nécessaires, etc. La vaccination est un acte médical, il est connu depuis, disons, le 18e siècle. Hein. On se souvient que la première vaccination contre la variole, Louis XVI, toute sa famille s'était fait vacciner, et on avait fait grande publicité avec les moyens de l'époque sur là-dessus, toutes sortes de prélats, toutes sortes de prêtres s'étaient aussi fait vacciner, avaient encouragé la vaccination, à une époque où personne ne savait de quoi il s'agissait, donc on découvrait. Donc voilà, il y a visiblement eu besoin de rassurer un certain nombre de gens. Il y a toujours des inquiets dans notre monde, on le sait bien. Donc je pense que le Saint-Siège a voulu rassurer et lever toutes sortes, enfin des obstacles plus ou moins fantasmatiques que les uns ou les autres pouvaient formuler.
Quand le pape défend le droit des couples homosexuels à une union civile, vous trouvez que c'est une avancée ?
Le pape a eu l'air de dire qu'il avait soutenu cela quand il était archevêque de Buenos Aires en Argentine, donc c'est pas tout à fait nouveau pour lui. Je pense que de fait il y a un point très important qui
est que ce soit le pape qui le dise, c'est pas la même chose non plus.
Ah, c'est pas la même chose quand c'est simplement l'archevêque de Buenos Aires, et c'est tout à fait certain, et s'il le fait. Alors, il faut, comme vous le savez sans doute, l'émission dans laquelle il a tenu ses propos est le résultat d'un montage, il faudrait regarder ça de plus près, mais ce qui est certain, c'est que la question de la place que l'on fait aux personnes homosexuelles dans nos sociétés est une vraie question aujourd'hui qu'il faut pouvoir affronter. Et notre point à nous, chrétiens, c'est de dire que ce n'est pas tout à fait la même chose que le mariage, en tout cas que le mariage sacramentel. Et ça a été notre réaction au moment de la loi sur le mariage dit pour tous.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Église de France pour 2021 ?
Eh bien, du courage, du zèle, de l'enthousiasme, de la joie, parce que normalement, notre foi nous donne de la joie. C'est bien ce que nous célébrons à Noël, hein, que dans toutes les ténèbres, toutes les obscurités, toutes les opacités de nos vies, Dieu vient percer tout cela et nous ouvrir un chemin vers une vie plus pleine. Donc ce qu'il faut nous souhaiter, c'est de porter ce message, de le vivre déjà entre nous, mais aussi d'être la capacité de le partager avec d'autres.
Merci Éric de Moulin-Beaufort d'avoir été avec nous ce matin. Merci et joyeux Noël à vous et merci aussi.
Merci à vous, bon Noël à tous et à toutes.